Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 3, les volcans mythiques de Java, deuxième partie. Sur les routes de l'Asie, c'est, vous le savez maintenant, le magazine audio qui vous fait voyager en partant à la rencontre des peuples, traditions et merveilles naturelles d'Asie. Et de merveilles naturelles, il en est question encore aujourd'hui, puisque vous allez écouter la suite et fin de notre discussion sur les grands volcans de l'île de Java en Indonésie avec Thierry Robinet. Si vous avez raté le premier épisode où nous parlions du Krakatao et du Merapi, vous pouvez l'écouter à l'adresse suivante sur lesroutesdelasie.com/2. Et sur cette même page, laissez vos commentaires. Place désormais à l'est de Java et nous allons parler avec Thierry de trois autres volcans tout aussi mythiques. On y va. On va poursuivre avec un couple de volcans. Très forte signification religieuse en Indonésie, le Bromo et le Semeru. On va commencer par le Bromo, qui est un nom aussi mythique et peut-être le plus connu en Asie, le plus populaire auprès des touristes, puisque d'abord il est assez simple d'accès, très visité. Est-ce que tu peux nous en décrire un petit peu les particularités?
Ben là, on arrive déjà dans l'est de Java. Donc l'est de Java était beaucoup plus resté beaucoup plus longtemps hindouiste que le centre ou l'ouest de Java, qui était devenu musulman donc au fil des siècles. Et Bromo, ça veut dire Brahma déjà. Donc là, on rentre dans l'antre de Brahma, des dieux du panthéon hindouiste. Le Bromo est connu pourquoi? Parce que c'est certainement un des volcans les plus faciles d'accès pour le tourisme. Le tourisme naissant sur Java ou Bali, bon, beaucoup de gens sont partis au Bromo parce que c'est facile d'arriver en voiture sur les pentes à Cemoro Lawang, traverser la mer de sable parce qu'il y a une immense caldeira qui fait 12 km de large. Donc là, il n'y a pas de lac, il y a plutôt une mer de sable qui est absolument phénoménale. Quand on est à l'intérieur de cette mer de sable, il y a des accents de Tibet, il y a des accents d'Afghanistan, parce que je me rappelle avoir vécu comme ça un peu les mêmes sensations dans des déserts afghans. Avec tous les tengers, donc les gens qui habitent cette région-là vont à cheval. Et ça, c'est... Le paysage est fabuleux. Quand on va, avant de parler peut-être du volcan Bromo, il y a un endroit où on monte, où tous les touristes vont monter, qui s'appelle Penajakan. Et quand on est là, à 3000 mètres d'altitude, au lever de soleil, et qu'on découvre tout le plateau du tenger, parce que c'est le plateau du Tengger, on l'appelle, avec ce volcan Bromo au milieu de cet immense cratère, au milieu de cette caldeira, avec le volcan Batok qui est à côté, Vidodaren. Et à l'extérieur de la caldeira, vous avez un volcan extraordinaire derrière, qui est le toit de Java, le Semeru, on va y revenir, qui est derrière. Je peux vous dire que c'est, de tout ce que j'ai vu en Indonésie, c'est un des deux plus beaux paysages que j'ai vu sur l'Indonésie. C'est absolument phénoménal.
Et c'est d'ailleurs la vue qu'on retrouve très souvent dans les livres, sur les sites internet, quand on tape volcan Indonésie, c'est la vue la plus connue peut-être.
Voilà, c'est la vue la plus connue parce que c'est incroyable. J'ai l'impression de retourner à la guerre du feu, à la genèse de la terre. Donc il y a peu d'endroits quand on se balade en Afrique, on voit ça quand on va vers Niragongo, Ngorongoro, tous ces grands plateaux de l'est de l'Afrique, on voit des paysages comme ça. Et ben là sur Java, c'est exactement la même chose. On découvre le plateau du Tengger et on se croirait des millions d'années en arrière. Après ça, donc vous descendez, vous allez dans la caldeira, vous rentrez. C'est très facile de monter sur le cratère parce qu'il y a des marches d'escalier, il y en a à peu près 200, mais bon, ça se fait tranquillement. Ça sent un peu le soufre. Et quand on arrive en haut, on découvre un cratère en entonnoir où une épaisse fumée blanche, parfois grise, sort comme ça, énorme, avec parfois un souffle au fond. On entend les... La nuit, on y voit du feu. Donc, on sait qu'on voit un volcan actif. Donc, pour le tourisme qui vient à Bali, qui visite Java... n'a pas la possibilité physique souvent de monter sur un volcan. Bon, mais je pense que le Bromo est le très bon exemple du volcan à visiter, voir un volcan actif, comprendre un petit peu ce que c'est qu'une caldeira, voir de la fumée et voir du feu parfois, et donc ça attire les gens. Et c'est vrai que dans la région du Bromo aussi, beaucoup de Français vont là-bas, comme j'expliquais tout à l'heure, donc parce que les Français et le volcanisme, c'est une histoire d'amour depuis bien longtemps.
Et donc au loin, plus au loin, quand on monte à cet endroit avec cette vue magnifique, on voit le Semeru, le toit de Java, tu l'as évoqué. C'est un volcan qui est cette fois une autre paire de manches, beaucoup plus compliqué d'accès. Et c'est un volcan aussi qui a une très grande importance à tes yeux, que tu as fait je crois 53 fois. Donc c'est dire si tu en connais les moindres recoins. Est-ce que tu peux nous parler du Semeru ?
Semeru. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on l'aperçoit du sommet de Penajakan et qu'on voit cet immense bloc de pierre pentu au loin là-bas, quand on aime la marche, quand on aime le trekking, comme moi j'aimais, quand on aime la découverte et qu'on aime le volcanisme, on peut pas ne pas aller au Semeru. Moi, c'était ce qui m'a habité dans les années 80. Et je me disais, bon, attends, là, je voyais un volcan. En plus, le Semeru explose depuis près de 3 siècles. Donc, il a un énorme champignon atomique qui sort comme ça du sommet. La première fois, quand on arrive, on n'a qu'une envie, c'est de dire, tiens, je vais aller là-bas, je vais aller voir ce qui se passe. Donc, pour arriver au Semeru, toit de Java, 3676 mètres, donc c'est pas un petit volcan. C'est toute une aventure. Partir du Bromo, découvrir, aller jusqu'au village de Ranopani, où là on peut dormir. On peut dormir dans la lodge des gardes forestiers qui peuvent nous donner à manger. On peut dormir, coucher, etc. Et on a des porteurs. Et là, pour partir au pied au camp de base du volcan Semeru, bon, il y a une grosse journée de marche dans une nature extraordinaire de fougères arborescentes qui font près de 10 mètres de hauteur, de pins, une flore avec des orchidées, avec des plantes extraordinaires, très, très particulières au niveau dans cette région volcanique. On voit des cerfs, on voit des singes roux. Donc en même temps, c'est quelque chose de botanique, faune et flore qui sont intéressantes à visiter. Et on plante sa tente à 2009, 3000 mètres d'altitude à Kalimati. Et là, on a devant nous le monstre. En plus, quand il explose, je peux vous dire, rien que du bas déjà, vous regardez, vous dites, mais c'est fabuleux, est-ce que je vais monter là-haut ? Moi, c'est ce qui m'a habité dans les années 80, quand la première fois je suis arrivé et que j'ai amené, comme je travaillais dans le tourisme, un groupe avec moi. Personne n'avait jamais fait le Semeru. Donc c'est moi qui ai formé les porteurs, c'est moi qui ai formé les gardes forestiers à leur expliquer que bon, le tourisme va venir, les Français ils aiment bien les volcans, et avec moi on va commencer. Donc je leur ai appris comment ça marchait un petit peu, et ils m'ont emmené, parce qu'eux le connaissaient bien le Semeru, eux ils étaient montés déjà. Donc j'avais besoin de ces guides locaux pour m'emmener là-haut. Et je peux vous dire que la première fois quand on monte, on ne sait pas. Donc, on a toute une traversée de forêt, d'abord sur 150 mètres, 200 mètres, où il faut s'accrocher aux racines, donc il faut s'accrocher. Et c'est physique, donc il faut payer de sa personne. Le mieux, c'est de partir de nuit, parce que sinon, de jour, quand on voit ce qu'on monte, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, de nuit, ça va. Puis, il fait moins chaud. Et arrivent les 400 derniers mètres qui sont de la caillasse. Donc là, c'est vraiment sur le volcan lui-même, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, le physique prime sur tout. Le physique et le mental. L'avantage par rapport à un volcan comme le Rinjani à Lombok, qui est très haut aussi et très long, c'est qu'il n'est pas très long celui-là. Pour les plus costauds, les physiques, en 2h30 on est en haut. Pour les moins bons, il y en a qui pourront mettre 6h. Mais alors, dans le froid, la montée et tout à 3676 mètres, au petit matin, il fait 0 degré, même j'ai vu jusqu'à moins 5. Mais alors la vue, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Être sur le toit de Java, voir la mer au nord, au sud de Java, voir Bali, presque l'île de Bali, on devine, parce qu'on voit jusqu'au Kawaijen, le Rarong et tout, on peut entrepercevoir le Rinjani, et voir tous les volcans de l'autre côté sur l'est, et c'est l'Himalaya encore une fois, on est au sommet du monde là. On domine, on est haut, et en plus vous avez quelque chose qui est extraordinaire, c'est que quand on arrive sur le dôme, on ne va pas au bord du cratère, surtout s'il est en éruption, parce que je pense qu'on peut y laisser sa peau, avec les pierres qui fusent, les effusives qui partent à l'horizontale. Ça c'est très dangereux parce qu'on ne les voit pas arriver, surtout de jour. Mais quand vous avez cet immense champignon atomique qui fait plus de 1000 mètres de hauteur devant vos yeux, là, à 100 mètres devant vous, là vous dites... Là, le volcan. Ça, c'est un volcan. C'est fabuleux. Un vrai champignon atomique. Moi, pour moi, donc, qu'il l'ait grimpé 53 fois, comme tu le disais, Romain. Pourquoi l'ai-je fait 53 fois ? Parce que j'ai emmené des groupes, à l'époque, des groupes de Français donc, qui étaient intéressés, des volcanologues, j'ai emmené. Et j'ai appris à connaître le Semeru. Quand il n'explosait pas, je suis allé au bord du cratère. J'ai fait comme tout le monde. J'ai voulu savoir vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que le volcan, il chantait. Parce qu'il y a une déesse qui est au sommet. C'est Meru, c'est Mahameru en fait. Mahameru, Maha c'est grand comme le Mahatma Gandhi. Meru c'est le stupa. Donc le mont Semeru c'est le grand stupa. Et il y a une déesse qui habite à l'intérieur du cratère, elle s'appelle Giriputri, et elle chante. Et de temps en temps on entend, alors elle fait des sifflements, elle fait... Et ça c'est fascinant. Et un jour... Je me souviens, en offrande à la déesse, j'ai jeté un sarong, j'avais un grand sarong blanc balinais qui était très beau. Et je l'ai jeté, il est parti dans le vent comme ça. Et j'ai un client qui a fait la photo, et un jour il me l'a envoyé, il m'a dit « Tiens Thierry, regarde ». Et je vois ce grand sarong blanc qui s'enfonce dans le cratère comme ça. C'était fabuleux. Bon, c'est des petits moments de joie que je me suis fait personnellement. Et avec toutes les éruptions que j'ai vues au fil du temps, le froid qui me mordait les mains, les oreilles et tout, bon, c'est fabuleux, quoi. Alors 53 fois, bon, je suis né en 1953, donc je l'ai fait 53 fois, mais je pense que je le ferai une 54e fois, à mon avis. Et pour moi, de tous les volcans indonésiens quand même que j'aime, que ce soit le Krakatoa ou le Merapi, que j'aime beaucoup, le Semeru reste pour moi quand même quelque chose de particulier. Parce que au niveau physique et au niveau découverte aventure, je crois que j'ai donné et j'ai compris.
Alors tu parlais de cet amour des Français pour les volcans. Et il y en a un, on va finir en beauté, un grand nom également du volcanisme, peut-être l'un de tes préférés, le Kawaijen. Donc un nom aussi qui est aujourd'hui assez connu. Des émissions de télévision l'ont rendu très connu et qui n'était pas pour rien, on va en parler. C'est un volcan assez incroyable parce qu'il laisse un souvenir impérissable chez les gens qui le visitent. Et c'est cette rencontre avec les porteurs de soufre.
Alors moi, le Kawaijen, bon, c'était un parfait inconnu. Tous les volcans, le bout de Java Est, ont toujours été des parfaits inconnus. Le Kawaijen en faisait partie, et à côté, il y a un autre volcan qui est extraordinaire. Donc je fais juste une petite parenthèse, qui s'appelle le volcan Raung, qui est absolument un parfait inconnu, mais qui est quand même le deuxième cratère le plus profond du monde, avec 600 mètres de profondeur. Arun Taziev a voulu le descendre, il n'est jamais pu aller jusqu'au fond, il n'avait pas cette corde, donc il s'est remonté. Voilà. Donc, mais c'est un volcan actif, et j'ai eu la chance en 86, je rentrais d'avion de Jakarta sur Bali, et on passe toujours à la hauteur de l'Ijen Raung, et j'ai vu donc dans la nuit un rond rouge extraordinaire, et j'ai compris que c'était le Raung. Donc j'ai pris une voiture, je suis retourné à l'est de Java et j'ai grimpé le volcan et j'avais devant moi, pour moi tout seul, avec un guide local du village qui était juste au pan du un lac de lave. Et en Indonésie, il y a peu de volcans qui ont un lac de lave, si ce n'est le Raung. Alors le Kawaijen, pareil. Comment ai-je découvert le Kawaijen? C'est aussi des vues d'avion, parce que souvent je me baladais entre Jakarta donc et Bali et je voyais ce volcan avec un lac vert. Extraordinaire, des fumerolles et tout. Et moi qui étais dans le tourisme et que je commençais à faire pas mal de circuits d'aventure, notamment sur le volcanisme, sur les volcans, j'ai compris que le Kawaijen devait faire partie de ces voyages, de ces paysages mythiques volcaniques. Donc comment faire pour y aller? Il n'y avait pas de route. Donc je suis arrivé dans une petite ville qui s'appelle Bondowoso. Et là, j'ai demandé, bon, je veux aller dans un volcan. Je ne savais même pas le nom, je me rappelle. Je veux aller là-bas, comment il s'appelle et tout. J'ai vu qu'il y avait un cratère et tout, il y avait de la fumée, c'est vert et tout ça. Bon, des gens m'ont dit, oui, on connaît, c'est le Kawaijen. Comment y faire? Ben, j'ai demandé à l'armée. Il n'y avait pas de route, on est monté dans des chemins, mais alors pourris de chez pourris, en 4x4. Et on est arrivé dans un petit village qui s'appelait Saint-Paul. Terminé, plus de route. Donc j'ai dormi à Pasangrahan dans un truc poussiéreux et tout par terre avec quelques clients et on a dit on part. Donc on partait de Saint-Paul à pied jusqu'au Kawaijen, il y avait à peu près 12 kilomètres, donc on a fait 12 kilomètres à pied dans la savane où il y a pas mal de léopards encore qui traînaient dans le coin. Et quand je suis arrivé là-haut, mon Dieu, je savais pas. Il y avait des porteurs, des gars qui traversaient, qui passaient avec des paniers comme ça, sur le dos, avec, on aurait dit de l'or jaune, du soufre donc, qui était dans les paniers transportés. Puis quand j'ai vu le lac, oh, fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot. Donc j'ai pu voir le Krakatoa, j'ai vu le Merapi, j'ai vu le Semeru, mais là quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, c'est fabuleux, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est comme dans un rêve. Alors donc je suis descendu dans le cratère, je suis allé voir les porteurs. Donc là j'ai commencé à discuter avec les gens, je me suis fait des amis. Et quelque part, je suis devenu moi-même le gardien du Kawaijian. Parce que depuis, donc, étant le premier à avoir emmené quelques touristes là-bas, donc j'y suis retourné après, j'y suis retourné pour moi-même. J'ai un copain maintenant qui s'appelle Boudi, qui est la personne qui a travaillé depuis le plus longtemps dans le cratère, depuis plus de 40 ans. C'est devenu un ami. Et moi, je suis reçu toujours à bras ouverts quand je vais dans le cratère. Derrière... avec ma connaissance des volcans au fil des années, donc étant devenu un spécialiste de l'Indonésie, la télévision est venue à moi. Donc notamment l'émission Ushuaïa. Et j'ai commencé à travailler avec Nicolas Hulot. Le premier tournage en 1990, c'était sur le volcanisme actif de l'Indonésie. Donc moi j'étais à l'aise puisque je connaissais le Semeru, je connaissais le Krakatau, je connaissais le Merapi, je connaissais le Kawaijian. Et donc c'est moi qui ai donné la trame du voyage à faire en Indonésie sur le volcanisme actif. Donc ça a été, la plus grande part a été sur Java, et j'ai emmené Hulot dans le cratère. On a fait du zodiaque sur le lac, parce qu'il faut expliquer que ce volcan est un peu particulier. C'est pas un volcan comme un autre, il a un lac donc, mais ce lac a une composante chimique absolument phénoménale. C'est le plus grand lac d'acide chlorhydrique et sulfurique au monde. Mmh. 1 million de tonnes d'acide chlorhydrique dans le lac, 500 000 tonnes d'acide sulfurique. À la température du lac, récemment quand j'y étais, elle faisait 53 degrés. Et au fond du lac, qui fait à peu près plus de 200 mètres de profondeur, la température est de plus de 260 degrés. Pouvant varier jusqu'à 300-350. Donc, c'est une soupe de Satan. Et quand vous êtes à côté du lac, au bord de ce lac, couleur verdâtre, soupe de Satan, comme je disais, vous avez une mine à ciel ouvert, où le soufre sort liquide. Parce que le soufre, c'est comme de la lave, il sort rouge. Et quand il s'écoule, on dirait une petite coulée de lave, comme ça. Et au contact de l'air, il se solidifie, il devient de l'or jaune. Et vous avez dans cette mine qui est contrôlée par des Chinois de Surabaya, vous avez près de 100 porteurs. Parfois il y en a plus, parfois un peu moins, suivant si la mine elle donne plus de 12 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes ou 30 tonnes de soufre par jour. Donc ce soufre est transporté à dos d'homme par des gens qui sont souvent pieds nus ou en tongs et qui remontent sur une pente qui fait 35 degrés, des charges variant de 60 à 110 kilos. Donc ces deux paniers portés sur le dos à la façon très javanaise d'ailleurs, avec un bambou donc qui retient les deux paniers, tout ça sur l'épaule, et les gens remontent 120 kilos comme ça. Je peux vous dire que à l'heure actuelle, puisque le balai incessant des porteurs continue au quotidien, le bagne, ça représente ce que devait être le bagne il y a des décennies dans d'autres îles du Pacifique ou même en Indonésie, quoi. Donc ces gens-là sont comme des bagnards, sauf qu'ils sont payés. Ils sont bien payés pour ce qu'ils font, par rapport donc aux gens qui travaillent dans la rizière sur les pentes, ils sont payés au moins le double, mais la force qu'ils doivent avoir pour porter ce soufre, ça s'explique pas. Je pense que quand on travaille, c'est comme un mineur quand on travaille dans le Kawaijian. On aime ce qu'on fait. Parce que c'est pas pour l'argent qu'on fait ça, parce que, bon, même s'ils sont 6 ou 8 enfants parfois dans les familles, donc il faut nourrir tout le monde, mais je crois que s'ils aiment pas ce qu'ils font, on peut pas travailler là-bas. Parce que je crois que l'espérance de vie peut être très courte. Bon, même si je dis que Boudi, ça fait 40 ans qu'il travaille là-bas, mais depuis moi, j'y vais plus de 20 ans, c'est plus de 20 ans que je vais au Kawaijian, 25 ans. J'ai vu des tas de copains, des gens qui étaient devenus des copains, comme Rambo. Il y en avait un qui était Rambo parce qu'il était costaud, il portait jusqu'à 120 kilos. Rambo, du jour au lendemain, mort d'une embolie, terminé. Mm-hmm. Il y en a eu un autre, le frère de Madroussine, pareil, c'était un gars qui a porté, qui avait travaillé au moins plus de 30 ans, du jour au lendemain, disparu. Ils partent tous des embolies pulmonaires. Parce que le soufre qu'ils inhalent, ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien du tout, ils inhalent ça dans des quantités de proportions phénoménales. Bon, c'est pas viable au fil des années, quoi.
Et malgré ce soufre, on peut quand même descendre et aller observer ces hommes, récupérer le soufre, aller à leur rencontre, ou est-ce que c'est peu recommandé aujourd'hui ?
C'est pas recommandé, de ce qu'on peut dire, parce que inhaler du soufre à petite quantité, c'est très bon pour les bronches ou c'est très bon pour les gens qui ont de l'asthme, mais inhaler du soufre dans une mine d'acide chlorhydrique, ne pas oublier ça, et sulfurique, à haute dose, c'est pas viable pour le corps humain. Donc, le Kawaijen est connu maintenant, donc grâce à cette émission aussi de Nicolas Hulot que j'ai fait, donc vis-à-vis des Français, où tout doucement le tourisme, des reportages à la radio, des reportages à la télé, des reportages dans les magazines. Donc tout doucement, et comme c'est très près de Bali, le tourisme est allé là-bas. Notamment beaucoup de gens de Bali maintenant viennent au Kawaijen parce que la route est meilleure. Donc beaucoup montent au sommet du cratère. La montée n'est pas très difficile, donc physiquement ça va, on en baffe pas. Mais quand on arrive au sommet, je peux vous dire qu'il y a 70% des gens qui ne descendent pas déjà. Mmh. Ils n'ont pas envie parce que quand ils ont vu la fumée, ils ne se sentent pas capables. Et puis il y a un panneau qui est aussi posé avec une tête de mort et expliqué que « Don't go down, Bahia, danger so, ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà qui
disent « Non,
ils sont dissuadés ». Par contre, il y a les aventuriers comme toi, comme moi, et puis des gens qui ont envie de voir comment ça se passe au fond, puisque les porteurs descendent, donc si un porteur descend, c'est qu'on doit pouvoir descendre. On y va en faisant très attention en suivant les porteurs. C'est relativement facile, je veux dire, descendre au fond. Mais c'est la fumée, quoi. Si on est dans un nuage de fumée, je peux vous dire qu'on n'y voit plus rien. On n'y voit pas à 5 cm. On ne peut plus respirer. Donc c'est là qu'il faut au moins... Le meilleur serait d'avoir un masque, mais beaucoup de gens n'en ont pas. Donc il faut avoir un sarong ou une écharpe qu'il faut humecter d'eau, prendre de sa gourde et tout ça, l'humecter d'eau, et bien se le mettre sur le nez et la bouche, et éventuellement mettre le foulard dans la bouche, qui sert de filtre. Et ça vous sauve. Je vais vous dire, j'ai essayé, j'ai fait, donc c'est les porteurs qui m'ont expliqué, tu fais comme ça Thierry, et je l'ai fait et j'ai vu la différence. Avoir des lunettes, et surtout une chose très importante, ne jamais se toucher les yeux, parce qu'on est imbibé de soufre partout, donc sur les mains, et alors là ça brûle comme vous ne pouvez pas imaginer. Par contre quand on est en bas, souvent les fumées montent et on peut trouver des endroits où on peut se mettre à l'abri et regarder les gars qui cassent les morceaux de soufre, et ça c'est gigantesque.
Merci beaucoup Thierry, on a été transportés, on a une bien meilleure idée maintenant de ces 5 volcans sacrés sur Java. Si on veut te contacter pour peut-être un jour partir avec toi, aller explorer ces volcans, comment on peut faire ?
C'est facile, hein, il suffit de m'envoyer un mail. Donc mon adresse c'est thierryrbt@yahoo.com, voilà, ou te contacter toi Romain aussi puisque
via le site.
Oui. Via le site, mm-hmm. Voilà. Et parce que j'organise beaucoup de circuits volcanisme à Java, pas qu'à Java d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres volcans qui sont intéressants dans le nord sous la Vésie, à Florès, où je fais des voyages qui partent de l'est de Florès et qui viennent jusqu'à l'île de Komodo, où là aussi le volcanisme actif dans l'île de Florès est assez phénoménal, mais pas du niveau de Java quand même. Donc moi, si je conseille à quelqu'un de dire, tiens, je suis curieux, je veux voir des volcans, où est-ce que je dois aller, sans problème, je vais répondre, c'est Java. Voilà, donc aller visiter les grands, déjà Krakatoa, Merapi, Bromo, Semeru, Ijen, ça c'est une grande aventure volcanique, une grande aventure humaine et physique aussi. Donc c'est là que ça se passe, quoi. Et je peux, connaissant bien Java, je peux vous emmener et vous expliquer quels sont tous les phénomènes actifs de l'Indonésie sur les volcans. Parce qu'il y en a d'autres aussi.
Merci beaucoup Thierry.
Voilà, c'est la fin de ce double épisode sur les grands volcans de Java avec Thierry Robinet. Pour retrouver les noms évoqués, vous pouvez lire les notes de l'émission à l'adresse suivante, sur lesroutesdelasie.com/3. On aura souvent l'occasion de reparler de volcanisme dans de prochains épisodes, tant la région est riche dans ce domaine. Donc restez à l'écoute en vous abonnant au podcast via iTunes ou une application mobile. Vous pouvez aussi aimer notre page Facebook et vous abonner par email pour recevoir un message à chaque nouvel épisode. N'hésitez pas non plus à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, cela nous aidera énormément à faire connaître l'émission. Vous retrouverez tous ces liens sur notre site web, comme d'habitude, sur lesroutesdelasie.com. Dans le prochain numéro, nous traiterons d'un sujet passionnant en partant à la rencontre d'une tribu unique vivant dans l'archipel des Mentawai, tout proche de l'île de Sumatra. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.